RCF. Bonjour à toutes et à tous. Ne vous êtes-vous jamais posé la question d'où venait l'eau que vous consommiez au robinet de votre maison, de votre appartement? Quels étaient celles et ceux qui préparaient et vous permettaient d'avoir une eau de qualité dans vos verres ou pour prendre vos douches? L'eau, c'est cette ressource si vitale et pourtant si souvent prise pour acquise qui joue un rôle fondamental dans notre société et dans notre économie. Sa gestion, elle est au croisement de l'écologie et de la biodiversité. Elle soulève des enjeux importants que nous ne pouvons ignorer. En effet, à l'heure où le changement climatique modifie les régimes hydrauliques et menace les écosystèmes, il faut aujourd'hui adopter de bonnes pratiques, de meilleures pratiques en matière de consommation et de gestion de l'eau. C'est plus crucial que jamais. Le saviez-vous d'ailleurs que 1 kg de côte de bœuf, par exemple, c'est 15 000 litres d'eau nécessaire à sa production pour arriver dans votre assiette, qu'un jean que vous portez, c'est 7 500 litres d'eau. L'eau est omniprésente dans tous les secteurs de notre économie, agriculture, industrie, tourisme, énergie, mode. Elle est le moteur de la production alimentaire et un élément clé de nombreuses industries. Cependant, cette omniprésence s'accompagne d'une grande responsabilité, celle de gérer cette ressource de manière durable. La surconsommation et la pollution de l'eau entraînent une dégradation des écosystèmes aquatiques, affectant non seulement la biodiversité, mais également les services écosystémiques dont nous dépendons, créant de fait en France, suivant nos régions, désormais de la disparité. Certaines régions du Nord seront plus riches en eau que certaines régions du Sud. Dans l'agriculture, qui en est le premier consommateur d'eau douce à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'irrigation efficientes et économes, telles que l'irrigation du goutte à goutte, peut être aujourd'hui significative dans la réduction de la quantité d'utilisée. De telles méthodes permettent à la fois d'économiser de l'eau, mais aussi de limiter les ruissellements et la pollution par les nitrates, contribuant ainsi à la préservation des cours d'eau et des écosystèmes aquatiques. Donc il ne faut pas jeter forcément la pierre à tout le monde de l'agriculture. Il existe des solutions. Eh bien justement, on y est. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines dans l'écho des solutions. Cette semaine, on va évoquer le cycle de l'eau. On va parler de l'eau puisque l'eau, vous le savez, si elle est vitale dans la foi chrétienne, puisque c'est elle qui, par son onction, donne la vie aux enfants baptisés, la vie dans l'esprit, la vie dans la foi, l'eau est nécessaire pour notre propre vie au quotidien puisqu'il faut que notre corps s'hydrate régulièrement. Et on oublie que le simple geste d'ouvrir un robinet nécessite extrêmement d'autres actions avant d'arriver dans nos verres, dans nos bouteilles ou simplement dans nos salles de bain. Et c'est ce que l'on va voir avec tous nos invités. Je me suis rendu, et oui, on se balade vraiment beaucoup cette année, je me suis rendu la semaine dernière sur un salon qui se tenait à Toulouse qui s'appelle Cycléo, qui est le salon dédié aux professionnels de l'eau. Et on a pu évoquer avec les acteurs de cette filière de l'eau, ces acteurs de la filière économique, touristique, voire même avec le monde politique et académique, on a évoqué la place de l'eau aujourd'hui. Quel lieu pour la formation, les nouveaux métiers, mais aussi la gestion touristique de l'eau, tant chez les acteurs du tourisme que chez les touristes eux-mêmes. Bref, autant de questions qu'on va voir avec tous nos invités et je vous propose de commencer bien évidemment avec notre invité éco. On retrouvera après Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais avec Joseph Prono, on va évoquer cette question assez simple finalement. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers de l'eau? Quelles sont les professions? Quelles sont les formations qui existent? Joseph Prono est le responsable des filières formation à l'Office international de l'eau. On le retrouve tout de suite. Il est notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité Joseph Pronot de l'Office international de l'eau. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Joseph Pronot, on va parler formation avec vous parce que on le sait bien, une des clés pour pouvoir résoudre tous les enjeux de l'eau, c'est aussi d'avoir sur le terrain des personnes, des hommes, des femmes qui s'intéressent à la question de l'eau et qui en font leur métier. Une étude a été faite en 2020 sur une étude prospective sur la question de l'eau et de la filière de l'eau. Aujourd'hui, quand on dit travailler dans l'eau, c'est quoi les métiers qui existent dans cette filière?
Alors quand on dit travailler dans l'eau, déjà on a l'impression qu'on va devenir un spécialiste de l'eau. Oui, c'est tout à fait le cas. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement un métier de spécialiste. En effet, dans le domaine de l'eau, il y a environ, et c'est cette étude qui l'a dénombré en fait, il y a une centaine de métiers que l'on peut exercer dans le domaine de l'eau parce que c'est vraiment une filière à part entière avec des automaticiens, des biologistes, des chimistes, des traiteurs d'eau, des hydrauliciens. Et vraiment, en fait, on est sur des domaines qui sont vraiment multicompétences en fait. Ceci étant, il y a quand même des grands métiers. C'est-à-dire, si on suit le cycle de l'eau, il y a les gens qui surveillent et qui gèrent la ressource. Voilà. Ensuite, il y a les traiteurs d'eau qui potabilisent l'eau ou qui l'épurent avant le rejet. Il y a les canalisateurs et les constructeurs des ouvrages qui posent des canalisations, qui construisent des réservoirs ou des stations de traitement. Il y a aussi ce qu'on appelle les exploitants qui font fonctionner au quotidien ces unités, avec une tension accrue en fait qui pèse davantage sur des métiers tels que les électromécaniciens qui sont très associés à la maintenance, sur les techniciens instrumentation et mesure, sur les automatismes, la télégestion, sur les conduits de travaux, sur les bureaux d'études, etc.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a de la tension, les métiers ne sont pas connus, il n'y a pas assez de filières de formation pour former à ces métiers-là. Pourquoi de la tension?
Alors, si on commence par l'amont, eh bien, on est sur une problématique qui est beaucoup plus globale et pas spécifique au domaine de l'eau, c'est que les jeunes sont moins attirés qu'il y a quelques décennies par les métiers scientifiques et techniques. C'est comme s'il y avait en fait des sciences un peu hard qui auraient tendance un peu à les amener vers d'autres sciences, d'autres métiers, disons, en fait, qui sont peut-être jugés un peu plus attractifs par les jeunes. Donc, l'offre de formation professionnelle au métier de l'eau est vraiment très, très développée. On en forme beaucoup. Mais petit à petit, on s'aperçoit quasiment qu'il y a une réduction d'un facteur 10 entre les gens il y a 10-20 ans qui voulaient postuler à ces filières-là par rapport à maintenant, en fait. Il y a moins de candidats.
La féminisation de ces métiers, je suppose que c'est un enjeu, on en parle dans toutes les filières. Aujourd'hui, on est à la parité ou c'est beaucoup plus masculin? Les idées reçues voudraient que ce soit beaucoup plus masculin. Et est-ce qu'on travaille aussi à la féminisation
Alors,
de cette filière?
Déjà, je pense que globalement, à l'échelle globale de la filière française de l'eau, on a un effort à faire justement sur la féminisation de nos métiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains métiers à l'intérieur que je vous ai cités, dont par exemple la pose des canalisations, les métiers de la maintenance électromécanique, qui sont peut-être un peu moins attractifs, qui sont même certainement moins attractifs, et on trouve moins.
À défaut d'y être attractif, on trouve moins de candidats parce que c'est candidates parce que justement elles ne pensent pas que ces métiers peuvent leur être accessibles.
Oui, mais en même temps, ça peut très bien s'exercer.
Tout à fait.
Voilà. Mais en même temps, il faut quand même relativiser ça parce que dans d'autres métiers en fait du domaine de l'eau, notamment en fait les bureaux d'études, mais aussi les laboratoires d'analyse, les pourcentages de féminisation sont beaucoup plus importants que ce que vous citez auparavant.
Qu'est-ce qu'elle dit cette étude en 2020?
Alors cette étude en 2020, déjà, elle est toujours d'actualité. C'est pas les conclusions n'ont pas changé 3-4 ans après. Ça, c'est le premier point. Ce qu'elle dit tout simplement, c'est qu'en fait, on fait face à une problématique qui est tout simplement la suivante, c'est que si en fait on veut bien gérer la problématique des ressources en eau tant qualitatives que quantitatives, il faut aussi s'attaquer à la problématique des ressources humaines. Or, pour les raisons que je vous citais tout à l'heure, on a moins de gens qui viennent sur le marché de l'emploi, en fait, de nos métiers de l'eau. Et on se retrouve, pour beaucoup d'employeurs, dont je fais partie aussi à l'Office international de l'eau, avec des difficultés de recrutement. Environ sur les 13 000 ETP qui doivent être recrutés sur des échelons de chacun.
Équivalent temps plein.
On a sur ces 13 000 ETP qui doivent être recrutés, qui représente quand même 10% de la population travaillant dans les métiers de l'eau. On est à peu près 124 000 professionnels qui travaillons dans les métiers de l'eau. On a 10% sur 5 ans, tous les 5 ans à renouveler. C'est énorme. Mmh. C'est vraiment une filière en tension. Et ben dans ces 13 000, il y en a 7 000 qui partent à la retraite tous les 5 ans.
Donc il y a un,
donc, y a un besoin qui est vraiment énorme. Alors ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a vraiment des forts besoins en recrutement. On a aussi une restructuration des services eau et assainissement. En résumé, c'est un peu caricatural, mais souvent c'est pédagogique quand on est caricatural. Donc voilà. Mais pour fixer les idées, c'est comme si on était à 20 000 services eau et assainissement il y a 10 ans, 20 ans. Et l'objectif, c'est de passer à 2 000. Et donc on divise par 10. Mais tout ça génère des restructurations et des regroupements de services eau et assainissement qui demandent vraiment en fait une professionnalisation accrue en fait de ces métiers. Et puis de plus en plus de professionnels. Les nouveaux polluants émergents, la réfaction de la ressource, le changement climatique fait qu'on a des nouveaux enjeux et donc beaucoup d'investissements et ça draine à ce moment-là beaucoup de demandes d'emploi.
Et est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître ou qui sont en train d'apparaître dans la filière eau ?
Bon, là, c'est vraiment la grande nouveauté, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de l'eau. On n'y est pas encore, mais on sait qu'on va y aller. En fait, eh bien, tout ça va plutôt provoquer des élargissements de compétences et plutôt que de nouveaux métiers. Et face à ces élargissements de compétences, il est vraiment très important de former ces professionnels existants et les futurs professionnels d'une manière continue, c'est-à-dire la formation professionnelle continue.
Vous faites ça,
c'est
vous,
vraiment
à l'OIT?
Un vecteur. Effectivement, donc à l'Office international de l'eau, donc nous avons un centre de formation
L'OIE,
est vraiment une référence nationale et puis internationale. On n'est pas les seuls, bien sûr. Voilà. Mais avec l'ensemble des organismes de la formation professionnelle continue, on œuvre justement pour renforcer les compétences. Et c'est un centre de formation vraiment assez conséquent qui forme 6000 professionnels par an et qui réalise 600 sessions de formation par an.
On a parlé de l'eau en France, mais si on veut donner un peu de sens aussi à ce nouveau métier, il y a aussi toute la compétence de l'eau à l'international. Et on sait combien aussi l'enjeu de l'eau n'est pas qu'uniquement franco-français, il est aussi dans d'autres territoires à travers la planète. Merci beaucoup Joseph Prono. On continue tout de suite avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors lors de votre dernière chronique, vous nous expliquiez que l'utilitarisme avait tout envahi dans nos sociétés dites postmodernes, y compris l'enseignement et la formation. Et vous nous faisiez la promesse d'y revenir. Nous y sommes donc, Pierre.
C'est exact. Et pour ceux qui auraient manqué le dernier épisode, je le résumerai en disant que lors de cette chronique, je regrettais que la dimension professionnelle à l'école comme à l'université avait littéralement tout emporté, favorisant un rapport massivement instrumental au savoir.
Alors, est-ce qu'il n'est pas légitime qu'une formation vise d'abord l'acquisition des savoirs nécessaires à l'exercice d'un métier, Pierre ?
Eh bien non. Et je crois que c'est précisément là que se situe mon désaccord profond avec tout un courant dit utilitariste que dénonçait d'ailleurs en son temps le pape Benoît XVI lorsqu'il disait, je le cite, que « quand la seule utilité et le pragmatisme immédiat s'érigent en critère principal, les pertes peuvent être dramatiques ».
Alors que voulait-il dire en fait, Pierre ?
Simplement, je crois que la mission d'un professeur d'université ou d'école ou même d'un maître d'apprentissage n'est pas exclusivement de former des professionnels compétents et efficaces qui puissent satisfaire la seule demande du marché du travail. Tout miser sur le profitable ou l'utilisable, je crois vraiment que c'est éliminer petit à petit toutes les matières fondamentales qui contribuent pourtant à la formation d'un homme ou d'une femme. Par exemple l'histoire, la littérature, la philosophie et pourquoi pas la théologie, ce qu'on appelait autrefois les humanités.
Alors justement, faudrait-il remettre ces humanités dans les collèges, les lycées et même dans les formations professionnelles ?
Eh bien pourquoi pas ? On les a éliminés peu à peu en expliquant que ces matières seraient coupées de la vie, sans utilité pratique immédiate, concrète, mesurable, ou bien on a aussi dit qu'elles seraient élitistes et qu'elles favoriseraient la reproduction d'une forme de domination.
Ces explications vous semblent cependant un peu simplistes, non ?
Oui, car il ne faut pas confondre, je crois, pratique et utile. Ce qui est pratique est bien sûr utile, mais ce qui est utile peut ne pas être pratique. Exemple, l'arithmétique et les recherches sur les nombres premiers sont abstraites, mais les nombres premiers servent à fabriquer des codes. Alors pour paraphraser Étienne Gilson, un philosophe bien connu, comprendre est toujours utile et les humanités sont le chemin qui nous aide à comprendre, à rechercher l'exactitude, à distinguer le vrai du faux, ce qui est une nécessité parfois vitale.
Alors si je vous suis bien Pierre, il importe de ne pas réduire l'utile à l'économiquement productif ou au financièrement rentable.
Exact. Et même si je n'ai pas ici la place pour le développer, j'insiste avec Erasme sur le fait qu'on ne naît pas homme et qu'on le devient. Les humanités aident former des êtres humains accomplis, des citoyens efficaces et utiles aux autres. Elles sont ainsi, comme le dit très bien Marc Fumaroli, le célèbre professeur au Collège de France et membre de l'Académie française, elles sont ainsi des instruments de liberté. Bien moi, je crois qu'à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'aube augmentée, il faut plus que jamais travailler à former des personnes, pas seulement des techniciens ou des professionnels.
Merci beaucoup Pierre Collignon. On retrouve d'ici quelques instants tous nos invités pour le dossier de l'Écho des Solutions qui sera consacré à l'eau. Vous savez que nous avons posé nos micros à Toulouse au salon de cette filière de l'eau et on va évoquer avec tous nos invités bien cette place, comment on peut équilibrer sobriété, coût, qualité tout en ne refusant pas le touriste. C'est ce que l'on va voir avec tous nos invités du dossier de l'Écho. On fait une pause musicale dans l'Écho des Solutions. On se retrouve tout de suite après. Merci Pierre, à très bientôt. Au revoir.
Ce mec à part, dont on dit regardez-le, paraît qu'il fuit les victoires. Un peu, qu'est-ce qui fait que son regard se pose souvent à côté, quand devant elle les miroirs sont posés. Plus on se cherche, moins on se trouve. Faudrait juste pas faire semblant pour être celui qu'on approuve, celle qu'on a dû dans l'instant. Plus on brille, plus on se cache. Sous la lumière, les yeux se plissent. Personne ne résiste, que je sache, aux éclipses. Aux éclipses. Papillons dans le ventre, aux timides, aux incompris, amoureux cachés mais transis, aux silencieuses battantes et aux étoiles filantes, aux fragiles, aux indécis, aux trop dociles, aux trop gentils, aux éclipses, aux éclipses, aux éclipses, aux éclipses.
C'était Eclipse sur RCF, interprété par Igitt. Nous, on se retrouve d'ici une poignée de secondes depuis le salon Cycléo à Toulouse pour évoquer la question de l'eau avec tous mes invités. Nous allons évoquer l'eau dans les territoires, l'importance de l'eau, cette denrée qui va devenir peut-être dans certains endroits de plus en plus rare. Comment est-ce qu'on peut concilier à la fois la sobriété mais aussi la qualité sans impacter l'économie locale, que ce soit l'agriculture ou le tourisme? Vous voulez tout savoir? Eh bien, vous restez à l'écoute, c'est d'ici quelques secondes, juste après cette virgule, sur RCF.
L'Écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau dossier de l'Écho des solutions. Cette semaine, je vous emmène en balade à Cycléo à Toulouse, un salon consacré à l'eau, et on va évoquer justement tous les enjeux et les défis que ce monde de l'eau a à relever. Et je suis avec le directeur fondateur de ce salon Cycléo, il s'appelle Jean-Claude Lasserre. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
La question de l'enjeu climatique, vous devez la voir apparaître depuis plusieurs années. Elle est au cœur des problématiques de l'eau. Ici, on est dans le sud-ouest. On sait que la raréfaction de l'eau est complexe. On est dans des territoires qui sont pas forcément pourvus toujours de rivières ou de ressources en eau. Cet enjeu climatique, comment il s'incarne ici dans un salon comme celui-ci ?
Très honnêtement, par les présentations, mais également avec les échanges et conférences. Mmh. Les thématiques des conférences sur ce rendez-vous sont élaborées avec les acteurs territoriaux, de l'agence de l'eau jusqu'à la plus petite communauté de communes qui ont les compétences. Donc l'intérêt, c'est que toutes ces personnes-là puissent être réunis sur un seul et même endroit pendant ces deux jours pour pouvoir échanger.
Alors on va retrouver tout de suite notre premier invité, il s'agit d'Antoine Orsini. Antoine Orsini, on parlait de ses experts, mais Antoine Orsini, c'est un des experts qui est présent sur votre salon, Jean-Claude Lasserre.
Tout à fait. Antoine Orsini est depuis 3-4 mois, nous sommes en relation parce que nous envisageons de faire un événement également sur l'eau.
En Corse ?
En Corse, avec aussi une problématique complètement différente. Et il m'a fait l'amitié de venir être le grand témoin
de ce
ici,
salon.
Pour expliquer également ce que lui, il met en place en Corse. Et puis, c'est un éminent chercheur un hydrogéologue. De talent et
c'est
de
ça,
renommée.
Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, on va passer finalement avec lui de la théorie de recherche à la pratique, puisqu'il est aussi président de sa communauté de communes au centre de la Corse. On retrouve tout de suite, on fait une micro-pause dans l'écho des solutions, on y retrouve tout de suite Antoine Orsini.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, je suis avec Antoine Orsini. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici à ce salon Cycléo. On va évoquer avec vous la question de l'eau. Et vous êtes là à double titre finalement, parce qu'à la fois vous êtes docteur en écologie, en hydrobiologie, vous connaissez l'eau, vous apprenez à nos chères têtes blondes et à ceux qui n'y connaissent rien à mieux l'appréhender. Vous essayez d'avoir une forme de vulgarisation de cette question et de ces enjeux de l'eau. Et en même temps, vous êtes en même temps en ce moment, c'est à la mode en politique. Et vous êtes en même temps président de votre communauté de communes. Donc évidemment, de ce fait, vous vous intéressez à la question de l'eau, parce qu'évidemment il faut pouvoir, et ce dans le centre Corse, parce qu'on a oublié de dire que vous étiez Corse, même si le nom pouvait le laisser supposer. Antoine Orsini, on va ouvrir ce dossier avec vous sur la question et les enjeux de l'eau. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui pour cette denrée, je vais appeler ça cette denrée parce que finalement on la consomme, cette denrée qui va devenir de plus en plus rare dans certaines régions de nos France et peut-être même en Corse?
Alors, je vais vous reprendre. Elle ne va pas devenir, elle est déjà. Donc, le changement climatique, avait dit un président de la République, c'est maintenant. Non, il avait dit le changement, c'est maintenant. Donc, le changement climatique, c'était déjà hier. Déjà hier, je l'ai montré dans les courbes, depuis le début des années 90, on est déjà dans le dur. Depuis le début des années 90. Mmh. Donc, vous voyez, c'était franchement hier, voire avant-hier. Alors, l'approche, elle doit être à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce que on a toujours autant de précipitations. Mmh. Il ne faut surtout pas, et là ça peut fausser l'approche de la problématique de l'eau, dire ah, regardez toute cette eau, regardez comme il pleut. Sauf que quand on regarde le débit des cours d'eau, en 50 ans, ils ont baissé de 30%. Mmh. La Garonne a baissé de 40% en 50 ans. Mmh. C'est terrible ça. Par contre, il pleut toujours autant. Il n'y a pas de signal. Il ne peut pas plus, il ne peut pas moins. Même les membres du GIEC, dans certaines micro-régions de France, au contraire, il va pleuvoir un peu plus au nord de Lyon. Je ne crois pas au plus ou au moins. En tout cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est l'évolution depuis les années 50. C'est qu'il pleut toujours autant, mais l'eau disponible, à cause de la chaleur, à cause de l'évapotranspiration, l'eau disponible dans les eaux de surface, c'est-à-dire les cours d'eau, les lacs ou les eaux souterraines, cette eau, elle est moins disponible. Donc, on est déjà dans le dur. On est déjà au pied du mur. Ça, c'est le côté quantitatif. Il faudra jouer avec.
Et le côté qualitatif, alors?
Et le côté qualitatif, il y a à la fois la qualité bactériologique sur la santé humaine et puis il y a la qualité écologique. Moins il y a d'eau dans nos cours d'eau, plus ils sont sensibles à la pollution. Mmh. Et donc, je peux vous parler de poissons et de grenouilles, mais après, je peux vous parler de maladies d'origine hydrique. Ouais. Aujourd'hui, en France, on a des maladies qui sont en Afrique, qui sont africaines. Mmh. La bilharziose, il y a eu 100 cas de bilharziose en Corse, qui est la France quand même. Hein. Ça avait fait sourire au Forum mondial de l'eau à Dakar. Le titre, c'était la bilharziose en France. Mm. Les Africains du Nord disaient, c'est pas possible, on l'a pas en Afrique du Nord, ou pas beaucoup. C'est en Afrique équatoriale. Mm. Donc voilà, c'est ça. C'est à la fois le quantitatif et le qualitatif. Et après, je reviens sur votre propos introductif, sur la formation. Je m'adresse à les têtes blondes, vous pensiez davantage à mes étudiants.
Bien sûr.
Mes vieux étudiants, avec mon grand âge, je n'enseigne plus qu'à des masters et puis qu'aux mastereaux. Mais par contre, je fais des conférences grand public. Et le grand public, c'est y compris le petit public. Ouais. Je me déplace dans les écoles. Les citoyens de demain. Bon, c'est une belle phrase, mais je fais des formations pour des élus.
Ouais.
Les élus, qu'est-ce qu'ils sont cons, eux, mais ça c'est off. Vous coupez pas.
Non,
donc
coupez pas.
Les élus, il faut aussi former les élus. Il y a des élus qui voient pas la réalité des choses. Et les chiffres sont têtus. Commençons par les chiffres. Et c'est là que même les élus disent, quand on voit toute cette eau qui va à la mer, si on veut.
Donc c'est quoi justement, quand vous intervenez dans une école, quand vous intervenez auprès des élus, vous insistez sur quoi? Sur ce que vous avez dit déjà auparavant, disant finalement on est déjà dans une denrée rare, mais vous insistez sur quoi exactement?
Alors je commence toujours par le constat. Et dans le constat, c'est pas le constat en 2030-2050. Au labo que j'ai l'honneur de diriger, on fait des modèles mathématiques. fait des modèles. J'en parle pas. Mes modèles, ils sont faux. C'est-à-dire, moi, quand je dis qu'il va y avoir un cours d'eau qui va s'assécher, peut-être, non, sûrement. Et si j'ai vu qu'il allait s'assécher une semaine par an, non, je me trompe, c'est peut-être un mois par an. Donc, comme on se trompe, ça peut être pire. C'est-à-dire, j'utilise un terme. On a des modèles linéaires. La température ne cesse de monter. Le débit ne cesse de baisser. Et en fait, les courbes s'affolent. La température, la courbe, elle monte. Maintenant, elle est en train de devenir exponentielle. J'aurais dû être à la télé. Vous avez compris, mais je le décris bien.
C'est ça.
Les débits, ça baisse pas comme ça. Ça baisse comme ça. Les courbes s'affolant, je ne parle pas de 2030, 2050. D'abord, 2030 et 2050, ça n'intéresse pas les élus. Ils raisonnent qu'à 6 ans, cela.
Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, vous ne raisonnez pas à 2030, 2050, parce qu'à 2030 ou 2050, tout ce que vous avez pu écrire, vous voulez dire que potentiellement ça peut être faux, parce qu'il y a eu un rééquilibrage des choses ou pas?
Ah non, ça peut être faux, mais ça peut être pire. Ah non, mais ça, c'est pas. Non, rééquilibrage, vous savez, si, comme dans ce qui s'est passé pendant le confinement mondial, à cause de la Covid. Vous avez vu Venise, j'ai été en voyage de noces avec ma femme, 30 ans après le mariage. Donc vous voyez, Venise, c'est un cloaque immonde. Là, Venise a retrouvé une autre qualité. Les milieux ont trouvé la qualité de l'air. Mais là, il faudrait attendre peut-être 20 ans pour que la planète redevienne normale, mais avec un confinement mondial. Je ne le souhaite pas. Mais même, donc on peut rêver un confinement mondial. Un jour, on se réveille tous et on dit, allez, on va changer la planète, ce qui n'est pas possible, sauf un petit virus ou une petite bactérie.
D'un autre côté, on a vu avec la Covid qu'on était capable de se mettre à l'arrêt et se mettre tous ensemble pour essayer de trouver des solutions.
Pour avoir le débat sur l'économie. Mais en tout cas, même dans le cas comme ça qui n'est pas possible, la planète, elle mettait 30 ans à réagir. Donc mes courbes, il faudra du temps si on veut que d'un coup, elles redeviennent un peu linéaires. Donc sérieusement, c'est de dire le constat, il est là. Ça s'arrangera peut-être pour les générations à venir. Et il y a intérêt que ça s'arrange, mais pas notre stade. Pas notre stade. Je ne dis pas que c'est trop tard, parce qu'après, je ne veux pas plonger dans l'éco-anxiété. Je ne veux pas que, y compris les jeunes... Aujourd'hui, moi, je vois dans mon entourage... j'ai la chance... Mes filles m'ont donné des petites filles, mais je vois, il y a des copines qui disent, moi, dans ce monde-là, je ne veux pas faire d'enfant. On est en train d'écrire un livre sur la météo dans lequel j'ai demandé à un historien d'aborder cet aspect-là, l'éco-anxiété. Donc, je veux être tout sauf un propos éco-anxiogène ou anxiogène tout court, et pas, à la fin de mon propos, distribuer du tranxène et autres anxiolytiques. C'est de dire parlons de solutions. Et je finis toujours par les solutions et j'insiste davantage sur les solutions parce qu'il y a des solutions.
Et alors aujourd'hui, quelles sont les grandes solutions? Il y en a plein, parce que des acteurs du changement, on en fait intervenir beaucoup dans l'écho des solutions, dans cette émission consacrée finalement aux problématiques, mais au travers des acteurs et des acteurs du changement. Quelles sont les grandes solutions aujourd'hui qui existent sur la question de l'eau? Et puis après, il y a peut-être des micro-acteurs qui mériteraient d'être mis en lumière, parce que souvent on sait que c'est par la communication qu'on fait d'une petite rivière un grand fleuve et une grande solution.
Vous avez parfaitement raison. Moi, je crois à l'exemple. Quand on a une collectivité qui a mis en place un dispositif qui marche, alors certains disent c'est à petite échelle, on ne peut pas le faire à la grande échelle. C'est faux. On peut toujours faire à grande échelle. D'ailleurs, on peut prendre toutes les communes. Les communes de France, et dire si chaque maire mettait en place quelque chose. Voilà. Alors, quand je dis ça, j'insiste sur les multi-acteurs. On ne peut pas avancer tout seul. Je veux dire, c'est le mot le pénétrant pour parler rugby, alors que je préfère parler foot. Je veux dire, si là on n'est pas... On pourra gagner que si on fait le moule et on montre les muscles, mais collectivement, pas tout seul. Tout seul, on ne peut pas. Même si... Parfois, quelqu'un seul montre quelque chose et me dit, regardez, si on se met à 10, on va avoir plus d'impact. Voilà, pour l'approche des solutions, d'abord, il y a une approche de paradigme. Moi, lorsque je discute avec mes amis agriculteurs, ils me disent, moi, je veux plus de réserves d'eau. Je veux plus d'eau, donc plus de réserves. Donc, c'est l'approche stockage. Et moi, je leur dis, si on commence l'approche stockage et pas l'approche économie d'eau, on se trompe. On se trompe, on l'a vu dans des micro-régions. Et donc, moi, j'approche d'abord l'économie. Je parle de stockage en numéro 5 ou 6, mais j'apporte des économies. Les économies d'eau, d'abord, il faut regarder qui consomme le plus. C'est l'agriculture. L'agriculture, allez, en France continentale, c'est 50%. En Corse, c'est 60%. Donc, ça veut dire, commençons. Alors, je dis à mes petits-enfants, quand vous vous brossez les dents, vous fermez le robinet. C'est bien, mais c'est pas eux qui vont assécher les cours d'eau. Hein. Mais je le dis quand même.
Bien sûr. Voilà,
c'est un... Et je dis plutôt à mes amis agriculteurs, réparer les fuites dans les réseaux. Utiliser des gouttes à gouttes et pas de l'aspersion. C'est un scandale de voir encore aujourd'hui, en Corse ou ailleurs, en plein mois d'août, des asperseurs qui arrosent du maïs. Quel scandale. Mettons du sorgho, mettons ce qu'on veut, hein, consomme moins d'eau. Mais surtout, ne brumisons pas. Ça ne descend pas sur un centimètre dans le sol. Voilà. Donc, c'est donc de la micro-aspersion. C'est la réutilisation des eaux usées traitées. Moi, quand je visite avec mes étudiants la grande station d'épuration de Bastia, je dis toujours, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Moi, je rêve de prendre ce tuyau et de le diriger vers la plaine orientale. Dans ce tuyau, il passe 7 millions de mètres cubes. C'est-à-dire, il passe le volume d'une retenue qui a coûté un bras du côté de la Balagne. Donc, c'est 7 millions de mètres cubes. Il n'y a pas de petites économies. Donc, c'est ça, la réutilisation des eaux usées, pour l'agriculture peut-être, mais aussi pour recharger les nappes. Parce qu'aujourd'hui, on a même les nappes qui sont les débits des cours d'eau ont baissé, je disais 30% pour la Corse, 40% pour la Garonne en 50 ans. Mais les eaux souterraines aussi, ça ne se recharge plus. Avec un sol très sec, quand il y a ces pluies extrêmes méditerranéennes, ça ne pénètre pas, ça ruisselle tout de suite. Voilà. Donc c'est ce problème-là. Et donc dans les eaux souterraines, on a moins d'eau et donc ce qu'on appelle les intrusions marines ou salines. Aujourd'hui, sur les littoraux, on pompe du sel. Et le sel, c'est le plus beau des désherbants et on ne peut pas le boire. Hein. Donc, on ne peut pas boire de l'eau salée. Donc, c'est ce problème-là. Voilà. Après, moi, je crois que toujours pour l'agriculture, je fais un focus sur l'agriculture parce que je fais un focus en Corse sur 60%. On va regarder 60% et pas
10%. Mais il y a aussi la question du rendement. Il faut aussi retravailler nos canalisations, voilà. Ce patrimoine de transport et de fuite.
Le chiffre en Corse, parce que je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est 50% de fuite. Ça veut dire quoi? Pour revenir sur le côté écologique, ça veut dire que quand vous avez besoin d'un mètre cube dans une rivière, vous êtes obligé d'en prendre deux parce que vous allez en perdre un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enlevé 2 mètres cubes au lieu d'un à une population de poissons. On a une truite endémique ou à des invertébrés. Et donc, on dégrade la qualité. Et puis, on va aller au-delà. On doit respecter des débits réservés, heureusement. C'est la loi et puis c'est l'écologie aussi. On doit respecter la loi. Et donc, on arrive à un stade où on ne peut plus pomper d'eau dans une rivière parce qu'on n'a pas géré nos fuites.
Alors je disais, vous êtes à la fois chercheur, on a vu la réflexion hein, du chercheur, de celui qui aime transmettre cette question de l'eau. Comment vous, maintenant, en tant que président de communauté de communes, vous arrivez à passer de ce constat, de cette théorie, de cet accueil des solutions à la pratique sur votre territoire?
Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, quand je dois présenter à mon conseil communautaire des investissements de 1 ou 2 millions d'euros pour changer des tuyaux, il faut convaincre. Et je tombe sur quelques élus climato-sceptiques en disant, bon, c'est pas les 3 gouttes d'eau qu'on perd dans les tuyaux, ça va arriver pour les vers de terre, c'est pas perdu. Bon, vous avez compris. Donc, quand je dis, mais quand on perd de l'eau chlorée, on a perdu aussi de l'argent. C'est-à-dire, on a dépensé de l'argent pour chlorer de l'eau qu'on va remettre au milieu. Alors en fait, ça va au-delà. On en revient sur l'histoire de... Aujourd'hui, on ne pourra pas prendre toute l'eau dans un cours d'eau parce qu'on a des fuites. J'arrive à convaincre. J'arrive à convaincre avec des arguments. Hein, avec des arguments parce qu'on va être tenu. Et donc, il faut investir. Donc l'investissement, on a l'aide de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et puis on a des aides de la collectivité de Corse, hein, la région Corse si vous voulez.
Alors on le verra à la fin de ce dossier, justement avec notre invité de la région Occitanie, le comité régional de tourisme. Comment on conscientise aussi les touristes? Parce que la Corse, c'est quand même... Il y a une partie insulaire qui vit une grosse partie de l'année avec les touristes, et c'est aussi les touristes qu'il faut conscientiser et les acteurs du tourisme qu'il faut conscientiser à cette question de l'eau. Comment vous agissez ou comment on agit en Corse sur cette question-là?
Je suis content d'avoir cette question et je vais tordre le cou à
une
contre-vérité en disant ce sont les touristes qui nous prennent toute notre eau.
Bon, ah, moi, je ne dis pas ça.
Non, mais j'ai pas dit que c'était vous qui le disiez. Bon. En Corse, on le dit. Ce sont les touristes, en plus c'est les piscines dans les hôtels. Donc on a un vrai débat. Le vrai débat sur les piscines. Alors, d'abord les chiffres. On en revient sur les chiffres d'abord, les solutions après. Les chiffres d'abord, le tourisme, c'est 10% de la consommation d'eau. C'est vrai que on est 350 000 Corses et il y a 3,5 millions de touristes. Mais c'est que 10%. Alors, je ne veux pas avoir une approche macroéconomique en disant le touriste, 10% d'eau, 40% du PIB. L'agriculteur, 1% du PIB et 60% de l'eau. Mais je ne veux pas le tenir. Parce que pour mes touristes, je veux qu'ils mangent des bons produits, qu'ils ne viennent pas d'Espagne ou de Portugal. On n'est pas loin de l'Espagne ici. Mais voilà, pour avoir de bonnes tomates.
Allez, dernière question, parce qu'il faut quand même qu'on puisse donner du temps à nos autres invités. S'il y avait un enjeu à retenir pour les territoires, au sens large du terme, Antoine Orsini, ce serait lequel qu'il faudrait, le défi qu'il faudrait relever pour ces territoires?
Alors, le défi majeur, c'est de mettre tout le monde autour d'une table. Et de petites tables, je m'explique. J'ai dit un jour à une ministre française, une COP, la COP 27, j'ai dit, Madame la ministre, on ne gère pas l'eau en Corse de Paris. Elle m'a donné raison. J'ai dit au président de l'exécutif, on ne gère pas l'eau dans le Cap Corse à partir d'Ajaccio, où il y a le siège de l'Assemblée de Corse. Et il m'a donné raison aussi.
Donc le territoire.
C'est l'échelle, c'est le territoire et pas toute la Corse.
Ouais.
C'est le territoire, les gens autour de la table.
C'est la notion du faire alliance, comme dirait mon ami Charles Benoît Hetzig, c'est faire alliance dans un territoire autour d'un commun qui est l'eau. C'est
tout,
ça.
Tout à fait.
C'est ça
bien
le défi à relever. Merci beaucoup Antoine Orsini. On continue notre petite balade et je vous propose d'aller rencontrer, après cette micro-pause, on va aller rencontrer les deux nouveaux, le directeur et la nouvelle directrice du syndicat des eaux du 47 pour évoquer cette question du territoire et la rentrer dans le concret finalement. C'est quoi aujourd'hui la gestion de l'eau dans le 47? Merci beaucoup Antoine Orsini.
Merci de m'avoir invité.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Et on continue notre exploration dans le monde de l'eau ici à Toulouse au salon Cycléo qui nous accueille pour cette émission de l'écho des solutions. On a posé les grands principes, les grands enjeux de cette question de l'eau avec Antoine Orsini et on continue avec le syndicat Eau 47. Vous le savez, les territoires ruraux, les territoires du sud-ouest, aujourd'hui sont impactés par cette raréfaction de l'eau. Et cette question, eh bien, elle doit être au cœur des politiques de ces syndicats des eaux. Et je suis avec Gérard Pénidon et Nadine Lenay qui sont dans un passage de relais à la direction de ce syndicat des eaux du 47. Je vais commencer avec vous, Gérard Pénidon. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici, alors à Cycléo, où vous avez posé votre stand pour ces deux jours. C'est quoi aujourd'hui le syndicat des eaux en 47? Ça couvre quel bassin? Ça rejoint quelle problématique?
Alors le syndicat eau 47 en chiffres, c'est 100 000 abonnés en eau potable sur 265 communes. C'est 9 000 km de réseau. On s'occupe aussi d'assainissement collectif à raison d'à peu près 50 000 abonnés sur ces 265 communes. C'est un secteur à dominante rurale. On a quelques communes urbaines, mais urbaines à la façon du sud-ouest.
C'est quoi urbaine à la façon du sud-ouest?
Alors, c'est des communes de 5 à 10 000 habitants. Ouais. Voilà, c'est pas des grosses métropoles. Ouais. Alors, c'est un syndicat qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant, qui s'est construit sur le partage de l'eau. On a du Lot, on a de la Garonne, mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc les élus de l'après-guerre ont compris qu'il fallait se réunir pour se partager l'eau et construire des grandes infrastructures pour alimenter toutes les fermes et toutes les maisons qui sont beaucoup en habitat dispersé.
Et alors aujourd'hui, avec cette raréfaction, avec cette transition climatique, ce réchauffement climatique dont on parle, est-ce que vous avez des enjeux importants à relever? Lesquels sont-ils?
Alors, l'origine de l'eau qu'on utilise pour faire de l'eau potable, c'est, je l'ai dit, le Lot et la Garonne, mais en grande majorité aussi des forages très profonds qui captent des nappes jurassiques, des eaux qui ont à peu près 10 000 ans. Le souci, qu'on a tendance à les exploiter un peu plus qu'elles ne se rechargent. Donc, les enjeux pour les 20 ans à venir, c'est d'effacer ces forages très profonds, revenir sur le Lot et la Garonne, qui ont quand même de grandes capacités de fourniture d'eau, pour garder ces forages profonds, pour les situations de crise, les étiages sévères, ou les générations futures qui peut-être n'auront pas la chance d'avoir le Lot et la Garonne comme nous on les a aujourd'hui.
La question que je me pose, c'est si vous mettez un peu de côté ces forages profonds, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut rénover, innover, créer de nouvelles infrastructures pour pouvoir emmener cette eau du Lot et de la Garonne jusqu'aux particuliers chez lui.
Alors effectivement, ça va supposer de grands programmes de travaux avec la construction de nouvelles stations d'eau potable. On a la chance aujourd'hui d'avoir des technologies qui nous permettent de traiter énormément de molécules indésirables, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc on a la possibilité d'utiliser ces rivières et on a la capacité à faire de l'eau de qualité pour la distribuer chez les usagers. Mais je vous le dis, toujours en gardant nos forages profonds en secours au cas où on aurait une difficulté sur ces cours d'eau ou une pollution accidentelle.
La question de l'enjeu climatique, vous y êtes attentif. Comment, comment vous répondez à ce questionnement, au-delà peut-être d'aller moins, aller moins chercher dans ces eaux profondes?
Alors les trois axes, je pense que tous les, toutes les collectivités travaillent actuellement, c'est d'abord la sensibilisation du public pour la réduction, la maîtrise des consommations d'eau, notamment en période estivale. La rénovation du réseau, 9000 km de réseau, je vous l'ai dit, mais c'est ce qui va nous permettre, j'espère, d'augmenter les rendements de réseau pour essayer de ne pas perdre l'eau qu'on a mis dans le tuyau avant qu'elle arrive au robinet. Et le dernier axe, c'est effectivement la gestion pertinente des ressources, à savoir prendre l'eau là où elle est, au moment où elle est abondante, notamment les rivières sur les périodes hors estivales, et peut-être revenir sur les forages ou les nappes d'accompagnement sur les périodes estivales aussi.
Et c'est quoi le rendement aujourd'hui pour le syndicat au 47?
Alors, comme on est très étendu sur ces 9000 km de réseau, on va aller d'un rendement de 60% à des rendements de 80% selon les secteurs. On est aux alentours de 71% globalement.
Allez, Nadine Lenay, vous allez prendre, vous avez pris la direction et vous êtes en tuilage avec, avec Gérard depuis quelques semaines. On n'a pas parlé du prix. Comment on arrive à tenir avec toute cette innovation, avec toute cette rénovation, avec toute cette raréfaction? On dit que tout ce qui est rare est cher. Est-ce qu'on arrive quand même à tenir un coût maîtrisé de cette eau, même si ce n'est pas forcément ce qui impacte aujourd'hui, hein. Ce n'est pas ce qui impacte le plus la facture des Français?
Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on est un syndicat départemental qui a travaillé depuis des années sur l'harmonisation des tarifs. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que de mutualiser les moyens sur l'échelle d'un département, d'un territoire, ça permet d'avoir un tarif maîtrisé. Alors évidemment, on aimerait avoir un peu plus l'aide des grosses collectivités et rattacher ces grosses collectivités qui ont
aussi, leur régie autonome.
Bien sûr, ou même en délégation de services publics, mais les agglomérations qui permettent d'avoir encore une maîtrise encore plus importante du tarif, puisqu'ils peuvent avoir des tarifs préférentiel parce que beaucoup d'abonnés sur un petit territoire avec peu de réseaux à gérer, donc c'est forcément plus facile. L'harmonisation sur un département complet facilitera encore une harmonisation des tarifs et une réduction des tarifs.
C'est un de vos enjeux aussi, d'aller convaincre ces grandes agglomérations de venir vous
tout
rejoindre. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre visite de ce salon. On va parler tourisme. Vous en aviez parlé à l'instant, Gérard Pinon, de cette importance aujourd'hui de savoir maîtriser l'eau, particulièrement pendant la période d'été, conscientiser les touristes à cette question de l'eau, mais aussi les acteurs du tourisme du territoire. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. On fait une petite pause dans l'écho des solutions, on revient tout de suite après.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Et on continue notre parcours de l'eau et on va parler tourisme avec Angelika Zoermost, qui est directrice du pôle qualité et transition au comité régional de tourisme d'Occitanie. Bonjour Angelika.
Bonjour.
Merci beaucoup. Alors après avoir évoqué avec Antoine Orsini, avec le syndicat de l'eau, cette question de l'importance de l'eau au cœur même des problématiques de territoire, une autre problématique dans les territoires et particulièrement en Occitanie, mais on l'a vu aussi un peu en Corse avec Antoine Orsini, la question primordiale, c'est les touristes, parce que les touristes, c'est une part de l'économie. Ça représente quelle part l'économie touristique sur la région Occitanie?
Alors, effectivement, l'Occitanie, déjà, ce qu'il faut dire, c'est une destination qui est deux fois plus grande que la Belgique. Donc, du coup, on couvre une importante surface. Et qui dit importante surface, dit aussi grosse capacité touristique. On a les chiffres 2023 nous indiquent qu'on a 222 millions de nuitées. Et donc, les touristes qui viennent, eh ben, à 65% à peu près, c'est les Français. Et puis, le reste, c'est les étrangers. Et je suis moi-même allemande, donc du coup, les Allemands, voilà, sont en forte hausse d'ailleurs en ce moment. même si c'est avant tout, bon, bien sûr, les Espagnols qui sont la première clientèle qui vient.
Comment aujourd'hui le comité régional de tourisme adresse-t-il cette question de la transition écologique auprès des acteurs et peut-être aussi d'ailleurs auprès des touristes eux-mêmes ?
Complètement, il y a ces deux approches. Alors du coup, comme on disait, grosse fréquentation touristique dit aussi un certain nombre d'impacts sur l'environnement et donc aussi sur le côté social, bien sûr, parce qu'il est créateur d'emplois. Et donc, du coup, le comité régional du tourisme a engagé depuis 4 ans un important programme de tourisme durable, alors qui s'est orienté et qui s'oriente toujours très fortement autour de la réduction des mobilités par voiture, bien sûr. C'est le premier facteur de nuisibilité pour la destination. Donc, laisser de côté la voiture, prendre le train. Il y a l'Occitanie Rail Tour, justement, qui permet de le faire aussi à partir de cette année avec le bus. Donc, il s'élargit et c'est assez chouette. Après, on travaille aussi, bien sûr, sur la question de l'eau. Avec depuis 2 ans déjà, on est partenaire associé du projet européen What Save Reuse. L'idée, c'est vraiment de travailler à la fois avec les entreprises, mais aussi les communes et auprès des consommateurs, les touristes qui viennent, pour les sensibiliser aux problèmes de changement climatique.
Concrètement parlant, quand on travaille avec les acteurs du tourisme, je pense aux hôteliers, aux campings, je pense aussi en effet aux sites touristiques, qu'est-ce que concrètement parlant, vous leur proposez pour travailler cette question de l'économie de l'eau, de la sobriété hydrique ?
Tout à fait. Alors du coup, le CRT est certificateur d'un gros label national d'ailleurs, donc qualité tourisme Occitanie Sud de France. On a certifié plus de 1400 établissements dans ce cadre-là. Et ce label, il est en train d'évoluer justement. On travaille beaucoup sur la qualité de l'accueil. Donc c'est des actions de fond que les entreprises engagent pour mieux accueillir les touristes, pour mieux manager aussi la qualité au sein de leur entreprise. Donc on a déjà travaillé avec eux sur justement les basiques, réduire leur consommation d'eau et tout, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, ce label est en train d'évoluer et va en 2024 avoir tout un volet sur l'éco-responsabilité et l'eau va en faire partie.
Alors, du point de vue où vous êtes, je suppose que vous rencontrez ces acteurs du tourisme assez régulièrement, même si on sait bien que le comité régional de tourisme est plutôt un catalyseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va initier des projets pour irriguer les territoires, c'est le cas de le dire quand on parle de l'eau.
Oui.
Mais quelles sont les bonnes pratiques qui vous ont marqué depuis quelques temps sur la question de la gestion de l'eau des acteurs ? Vous êtes dit, tiens, ça c'est intéressant, ce serait pas mal qu'on le réinjecte finalement à l'ensemble des autres acteurs, parce qu'il y a quelque chose, il y a une intuition.
Bien sûr. Alors du coup, déjà le CRT ne travaille pas seul. Il travaille en partenariat avec les départements, les agences de développement touristique départementaux, mais aussi localement avec les offices de tourisme. Dans certaines parties, il travaille aussi en tant que labellisateur, là de nouveau, sur le label Ville et Village Fleuri, dans lequel effectivement on voit beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques au niveau des communes. Au niveau des entreprises, effectivement, on peut parler de bonnes pratiques, mais moi aussi, je crois beaucoup aux offres de solutions qui sont en Occitanie, qui ont des solutions justement.
Lesquelles alors ? Vous en avez quelques-unes à nous citer là, alors, qui se trouvent intéressantes ?
On est en train de travailler dessus, donc du coup, je sais que c'est pas évident pour. Bref.
C'est quand la sortie de ces travaux ? Et on vous redonne la parole pour avoir ces acteurs de solutions, parce que ça nous intéresse, nous, de savoir qui sont les acteurs qui apportent des solutions aujourd'hui.
Qui apportent des solutions, du coup, ça va être avec l'agence ad hoc, avec Aqua Valley, qu'on est en train de travailler dessus.
D'accord.
Donc, par contre, le CRT est un centre de ressources pour les acteurs. On est justement en train de travailler sur la partie eau et tourisme. Donc, je pense que...
Donc, il faut se donner rendez-vous dans quelques temps pour pouvoir en parler un peu plus.
Moi, je pense d'ici la fin de l'année, parce que du coup, on attend que label qualité tourisme, il va basculer.
Ouais.
Et c'est là où on va déployer toute la machine auprès des entreprises.
Merci beaucoup, Angélique Azer-Most, d'avoir été notre invitée. Nous, on continue tout de suite notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, je suis donc avec Pierre-René Lemas, président de France Active. Bonjour Pierre-René Lemas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de Claude Alfandéry qui nous a quittés la semaine dernière. Il avait 102 ans. Il y a quelques belles personnalités en France qui sont mortes, centenaires, et d'autres qui sont encore là. Je pense à Aissel, je pense donc évidemment aussi à Edgar Morin qui est encore de ce monde, de Claude Alfandéry qui nous a quittés donc la semaine dernière. C'est trois grandes personnalités du monde de la pensée, de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie et de l'économie. Avec Claude Alfandéry, il venait de sortir quelques mois, quelques semaines avant de nous quitter, un livre avec Bastien Sibille, Le Milliard, comment trouver le milliard nécessaire à la transition. Il a été le fondateur de France Active, que vous présidez aussi, Pierre-René Lemas, fondé en 1988. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette figure de Claude Alfandéry, Pierre-René Lemas?
Je crois que Claude Alfandéry, il faut retenir d'abord le résistant, l'humaniste, le visionnaire. Vous parliez de Stéphane Hessel ou de Morin, et c'est la même génération, d'ailleurs ils étaient amis. C'est des personnalités extraordinaires, d'abord de la résistance, parce que Claude Alfandéry, c'est d'abord un résistant, et d'ailleurs toute sa vie, il revendiquera ce titre, ce passé de résistance. C'est les maquis de la Drôme et de l'Ardèche, c'est le libérateur de Valence, voilà. Et à partir de là, il a gardé des maquis, au fond, il le disait très souvent, le souvenir des combats sans doute, mais surtout le souvenir de la fraternité, de la solidarité, de l'apprentissage collectif. Et c'est de là qu'est venue sa vision d'un mouvement solidaire.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il crée en 1988 France Active, on en parlera peut-être un petit peu après, mais ouais. qu'est-ce qu'il laisse comme marque dans cette économie sociale et solidaire, dont on va fêter d'ailleurs au mois de juin les 10 ans de la loi Hamon, qu'il a restructuré, qu'il l'a structuré comme une filière économique aussi importante que les autres filières économiques?
Vous savez, c'était un formidable pari. C'était au fond marié la vieille tradition mutualiste française, la vieille tradition qu'on appelait solidariste française depuis le début du siècle dernier. Et au fond, son idée, c'était de dire, c'est un modèle pour développer une économie qui soit respectueuse à la fois de l'humain et de l'environnement. Au fond, l'idée centrale, c'est de remettre la finance à sa juste place, ni plus ni moins. Le premier attendu, c'est d'abord l'utilité sociale et écologique. Alors, écoutez, depuis 30 ans, l'ESS est devenu à peu près 10% de l'emploi en France, ce qui est pas mal. Donc, c'est un vrai poids dans l'économie. Et puis, comment dire, c'est devenu aussi le modèle qu'essayent de suivre beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous savez, avec notamment la loi Pacte qui a mis en avant la notion d'utilité sociale pour les entreprises, la notion d'entreprise à mission. On a quelque part là des petites graines qui ont germé et qui viennent de l'économie, de l'économie sociale et solidaire.
Et il n'y aurait pas eu Claude Alfandéry, il y aurait peut-être eu d'autres personnes, mais vous pensez que toute cette structuration de l'économie sociale et solidaire, on lui doit, il a été un acteur dans l'ombre de cette structuration, de cette pensée de l'économie sociale et solidaire à la française, parce qu'elle a finalement assez peu d'homologues dans les autres pays de l'Union européenne.
Oui, elle est assez différente dans les autres pays de l'Union européenne. Elle a pris des chemins différents. Moi, je crois que oui. Vous savez, Claude Alfandéry a été le promoteur de ce qu'on appelait l'insertion par l'économique dans les années 80. C'est-à-dire cette idée que des gens qui sont au bord de la route pour des raisons sociales, humaines, pour les personnes en situation de handicap, par exemple, mais pas seulement les situations de gens qui sortent de prison, qui sont en galère, qui sont en détresse, ils doivent pouvoir s'insérer dans la vie sociale en passant par l'économie et en passant par l'entreprise. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui a germé dans l'esprit de quelques novateurs, tout le monde reconnaissait depuis longtemps que celui qui a conceptualisé, qui a poussé, qui a mis en avant cette notion d'économie sociale et solidaire, c'est Claude Alfandéry. Et c'est pour ça qu'il a créé un outil d'ailleurs qui était France Active, qu'il a créé à l'époque avec cette idée de dire ben, c'est possible, on peut le faire, la preuve, je vais le faire. Mmh.
1988, c'est la création de France Active. Quelle est finalement, c'est la synthèse de sa pensée, sachant qu'en 2010, c'est-à-dire 12 ans avant sa mort, à 90 ans, il crée un autre outil qui est le labo de l'ESS. France Active, c'est une sorte de synthèse. Il se dit finalement, avec France Active, on va réussir à réconcilier l'économie, l'entreprise et le territoire.
Oui, c'était son idée à l'origine avec beaucoup de gens, des mutualistes, des syndicalistes. Mon maire, qui avait été patron de la CFDT, l'a rejoint vers ces époques-là. Et puis, le labo de l'ESS, c'est autre chose. Le labo de l'ESS, c'est justement la réflexion de fond, c'est-à-dire comment aller vers une vision transformative de notre économie. Donc, il a créé à la fois un outil technique et financier, hein, mmh. et puis de l'autre, un laboratoire de pensée, un laboratoire de réflexion. On dirait un think tank aujourd'hui, un endroit où on peut réfléchir à l'avenir de l'économie en général et de cette économie sociale en particulier. Mmh. Voilà. Il y a 10 ans, on va bientôt fêter l'anniversaire. Mmh. Cette notion d'économie sociale et solidaire a été consacrée par le législateur. Ça a été la loi portée par Benoît Hamon. D'ailleurs, il pensait et on pense aussi qu'il ne fallait pas la changer. Hein. Il faut rester sur ce cadre législatif qui a l'avantage d'être simple et facilement compréhensible. Il faut pas aller vers plus compliqué que la loi Hamon. Voilà. Et puis son ambition au-delà de ça, et c'était, vous vous rendez compte, c'était sa quête, sa demande, un appel qu'il nous avait lancé l'année passée pour ses 100 ans. Mmh. Il nous avait dit, tout ça c'est formidable, faut aller beaucoup plus loin. Alors, en 2009, il avait créé ce qu'on appelait, il avait donné l'impulsion plutôt à ce qu'on appelait les pôles territoriaux de coopération économique. Mmh. Alors, les PTCE, c'est des groupements d'acteurs territoriaux, c'est des groupements d'acteurs sur le territoire qui développent ensemble des projets économiques innovants. Voilà. Mmh. C'est une sorte de stratégie territoriale de coopération, de mutualisation. Ça a été reconnu par la loi en 2014 et on a la chance d'avoir une ministre qui est très engagée sur ce sujet, qui est Olivia Grégoire, et qui souhaite avec nous aller encore plus loin dans cette direction-là. Mmh. Et puis l'année passée, il dit bon, ben, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc il faut que vous lanciez. Il a lancé un appel à l'occasion de ses 100 ans aux coopérations territoriales. En gros, son idée, c'était de dire. Allez, il faut qu'il y ait une centaine d'initiatives solidaires qui se développent là dans les 2-3 ans. Lui, il nous a dit qu'il en faut 100 d'ici la fin 2024 ou la fin 2025. Donc, vous voyez, il avait une énergie formidable. Il avait fait un discours porteur formidable. Alors, ces coopérations territoriales, elles se développent. On a maintenant une soixantaine d'actions sur l'ensemble du territoire, ou des gens qui viennent d'un peu partout, hein, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des mutualistes, etc., sont en train de monter des stratégies de coopération territoriale pour le développement. Mmh. C'est complémentaire des pôles territoriaux de coopération.
Absolument.
Et je pense que s'il était resté parmi nous, je pense que comme d'habitude, il aurait eu une idée de plus par semaine.
C'est ça.
Et il nous aurait fait des discours magnifiques pour nous dire « Bon, alors c'est bien ce que vous faites, enfin quand même on peut faire plus et mieux, allons-y. »
C'est ça. En fait, ce qu'il faut retenir finalement de Claude Alfandéry, c'est qu'on peut toujours plus et mieux. S'il y a une chose que vous, à titre personnel, vous retenez de Claude Alfandéry, c'est quoi Pierre-René Lemas pour terminer ?
Oh, moi j'ai plein de souvenirs avec lui. Le plus beau souvenir avec lui, c'est sa manière de raconter son aventure, de raconter ses maquis. Il faisait ça avec un regard, vous savez, à la fois pétillant et bienveillant. Il y avait à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance, vraiment beaucoup de bienveillance. C'était un homme profondément modeste. Vous voyez, c'était un très grand résistant, c'était un innovateur. Bon, ça a été le fondateur de France Active. Vraiment, il était présent. Il y a encore moins d'un mois, il était avec nous en réunion de travail. Mmh. Et bon, voilà, moi, c'est son regard, son sourire qui me restera.
Merci beaucoup, Pierre-René Lemas, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur rcf.fr si vous voulez nous réécouter en replay. Sachez que tous les vendredis à 17h, nous sommes disponibles avant la diffusion hertzienne, c'est-à-dire sur vos antennes, tous les vendredis à 17h sur rcf.fr. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.